I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Got gun. Hulk left slot.
Dixie left. T left.
Mercedes. Wide chip, Ricky.
Bieber left, 75, Katie.
Omaha.
We're good.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery.
Yeah!
Go ahead. Goal line. Touchdown.
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 Et bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode Draft de Touchdown Actu. C'est l'épisode je ne sais plus combien, puisque même quand on donne les numéros, Alain rajoute des épisodes entre deux pour nous confondre. Donc c'est l'épisode beaucoup, et ça c'est important de dire. Et aujourd'hui, c'est votre épisode préféré, c'est celui où on va parler de la position la plus inutile du football en 2023, c'est la position de running back. Et évidemment, pour m'accompagner, Grégory Richard. Bonjour à toi, Grégory.
Bonjour à toi, bonjour à tous. C'est consternant ce déni perpétuel qui t'anime, alors qu'on sait très bien que tu vibres chaque année pour cette position riche en style et en slipper.
Mais évidemment, mais ce n'est pas du déni. C'est juste la constatation d'une certaine...
Normalement, je me permets de mettre les pieds dans le plat tout de suite. Normalement, tu devrais être ravi cette année, parce que même avec des joueurs de qualité, a priori, il n'y aura pas de coureur au premier tour. C'est déjà une première victoire pour toi, a priori.
Il n'y aura peut-être même pas de coureur au deuxième.
Mais ça, j'y mettrai pas ma main à couper, problème. Par contre.
Non, je n'ai pas dit que ça arrivera, dit que c'est une possibilité. C'est une possibilité notamment parce qu'on en parlait un peu avant le podcast. Et on est sur une classe qui est très dense, pour le coup, mais très homogène. C'est-à-dire qu'on s'est amusé à faire des tiers, parce que ça fait partie du jeu, entre guillemets. Mais honnêtement, on en parlait, il y a 6, 7, 8 joueurs qui pourraient être le premier running back pris, qu'on ne tomberait pas non plus de notre chaise.
Clairement.
On va... Oui, dis-moi.
Non, j'ai dit clairement, j'étais d'accord avec toi. Oui. Je corroborais ce qu'on s'était dit en off, en effet.
N'hésite pas. Toutes les fois où tu es d'accord avec moi, n'hésite pas à le dire. C'est toujours important pour l'ego. On va commencer tout de suite avec Trey Benson. Trey Benson de Florida State, qui est un joueur dont on a parlé en début de saison, qui est un joueur qui ne fera pas forcément l'unanimité, mais qui, je trouve, a encore marqué des points entre la fin de la saison et le début de la draft. Explique-nous qui est Trey Benson et quel type de coureur on a avec lui.
Eh ben on a affaire quand même malgré tout à un coureur assez complet. Alors c'est vrai qu'il va falloir diviser quand même les coureurs, à mon sens, dans deux catégories. On va avoir les coureurs assez lourds et impactants au contact, on dira, et les coureurs plus axés sur la vitesse et la capacité d'élimination par le biais des espaces. Je pense que Trey Benson rentre plutôt dans cette deuxième catégorie, je ne m'avance pas trop en disant ça. Malgré tout, il a quand même un gabarit NFL qui ne jure pas. C'est clairement pas un des plus petits coureurs de cette draft, et pourtant il arrive malgré tout à avoir cette capacité d'accélération permanente, cette bonne vision du jeu. Je trouve globalement, en tout cas, c'est vraiment pas celui qui fait le plus tâche là-dessus. Et tu le disais un peu, ce potentiel athlétique, tout simplement, qui fait de lui un joueur qui peut sortir du lot et potentiellement devenir un starter assez rapidement en NFL. On a vu des chiffres, notamment au niveau du combine, qui ont été extrêmement rassurants. Je crois qu'il fait moins de 4,40 sur le 40 yards. Ils ne sont pas beaucoup dans les joueurs qu'on va aborder aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'en plus, pour un joueur qui a été beaucoup, beaucoup sollicité du côté de Florida State, et qui revenait en plus d'une blessure importante de sa période, il me semble, du côté d'Oregon, bah on a vu que c'était un joueur qui n'avait pas forcément pâti de ça, et qui conserve, encore une fois, des attributs athlétiques assez fulgurants, et qui peuvent lui permettre, encore une fois, de se faire une place rapide chez les pros.
Je suis assez d'accord avec toi. Moi, ça a toujours été, quasiment depuis le début d'année, mon préféré. Je n'ai jamais trop changé là-dessus. Je trouve qu'en effet, il joue plus lourd qu'il n'est, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'il semble très difficile à plaquer, alors qu'on pourrait se dire qu'un joueur de son gabarit, qui a un gabarit, on va dire, normal, entre guillemets, enfin normal, normal pour la NFL évidemment, parce que bon, si on parle de nous, pauvres humains, c'est assez incroyable. Et en plus, on voit quand même beaucoup de coureurs qui ont du mal au bloc. Et je trouve que c'est un joueur qui est aussi un excellent bloqueur. Donc en fait, c'est un joueur qui peut apporter et qui peut aussi faire des réceptions, même si ce n'est pas sa spécialité, mais il sait le faire. Donc je trouve que c'est typiquement le joueur qui peut apporter en première tentative, en deuxième tentative, en troisième tentative. Il n'y a aucun schéma où il va être inutile, en fait. Et c'est ça que j'aime chez lui. Et je pense vraiment... Alors oui, il a eu des problèmes physiques qui font que tout n'est pas parfait. Et peut-être qu'à un moment, ça va y retomber dessus. Mais je trouve que globalement, c'est presque le profil... Enfin, moi, j'ai envie d'appeler ça le profil le plus rassurant de ce tiers 1, parce que tu as l'impression qu'il ne sera peut-être pas élite, mais il sera bon partout. Et finalement, c'est une capacité qui est assez rare et qui, pour moi, valorise quand même beaucoup en NFL. Donc c'est vrai que aujourd'hui Benson, c'est un des joueurs en tout cas qu'on voit le plus. Et tu l'as dit, au niveau du combine, il a été quand même sacrément bon et ça lui a ouvert des portes.
Pour compléter ce que tu dis, c'est vrai qu'il va aussi y avoir beaucoup cette question. Alors forcément, il y a la question de est-ce qu'il peut jouer sur trois tentatives, et tu l'as bien précisé, en effet, il y a cette capacité à la réception et sur le pass pro notamment, qui vont forcément jouer en sa faveur par rapport à d'autres concurrents du poste. L'autre élément important, c'est de savoir si c'est plus un coureur qui peut être amené à être un coureur massivement numéro 1, si j'ose dire, en tout cas un coureur qui va avoir un maximum de portée à son actif, ou plutôt être un coureur de comité, notamment les premières années. Là, on a vu que du côté de Florida State, même s'il y avait d'autres joueurs capables d'être sollicités, c'était vraiment la menace principale. Et encore une fois, on le répète, il y a ses qualités intrinsèques, mais il y a aussi cette expérience globale qui peut lui permettre d'arriver en NFL en disant « Bah voilà, moi j'ai mes références, j'ai joué en tant que vraiment coureur attitré d'une équipe qui en plus a été très performante en première division universitaire, notamment la saison dernière, avec tout ce que j'ai fait à côté. »
Oui, une équipe qui, on le rappelle, a fini invaincue et a donc logiquement accédé aux playoffs, hein, évidemment, puisque la CFB est tout à fait logique et égale. Ouais, j'avais envie.
Oui, vas-y. Ça parlera pas à tout le monde, mais voilà.
Voilà. Donc pour l'anecdote, je crois même que c'est la première fois d'histoire, hein, qu'on avait une équipe invaincue qui n'était pas en playoffs.
Hein. Tout à fait.
Bref, on va parler d'un autre joueur. Qui est peut-être le chouchou aussi de pas mal de monde, c'est Jonathan Brooks, le running back de Texas, qui est un joueur, avant de parler de vraiment juste les capacités, moi je trouve que c'est un joueur très intelligent. On a toujours ce joueur capable d'être patient et de prendre le bon angle, de prendre les bonnes choses. Je trouve qu'il fait partie de ces joueurs qui ont une belle vision. À Texas, ces dernières années, on est un peu habitué à ces joueurs-là qui sont intelligents. En plus, comme il est assez vif dans ses changements de direction, s'il voit que sa première lecture, entre guillemets, est finalement précaire, il peut tout de suite changer et aller sur une deuxième type de course. Donc, je trouve que vraiment, là-dessus, il est très bon. Il est difficilement attrapable. Il semble vraiment élusif, comme disent les Américains. Donc, il provoque beaucoup de plaquages manqués, etc. Il est explosif, peut-être pas aussi rapide que certains le voudraient, mais il est assez explosif. C'est plutôt un bon receveur, sans, encore une fois, que ça soit vraiment... Je ne mettrai pas dans des doubles menaces. Voilà. Je mettrai dans des receveurs corrects. Après, y a plusieurs choses qui, malheureusement, vont jouer contre lui. La première, c'est la santé, hein, puisque... Il s'est fait les ligaments en fin de saison, si je ne dis pas de bêtises. Fait, ouais. Donc, c'était quand même, c'est assez récent et ça risque d'impacter son camp d'entraînement. Ça risque d'impacter plusieurs moments dans son début de carrière en NFL. Donc, ce n'est pas anodin. C'est quelque chose qui, globalement, est pris au sérieux, notamment quand on parle des running backs, qui ont, c'est une position... où le déclin après blessure peut arriver assez régulièrement. Mais à côté de ça, il a quand même montré qu'il était absolument complet. Il a enfin eu, on va dire, l'opportunité dans cette université de Texas avec le départ des titulaires de se montrer. Et il a tiré le meilleur de cette opportunité. Qu'est-ce que tu en penses ?
J'en pense qu'il serait sans doute le coureur peut-être numéro un sans conteste de ce groupe si en effet il n'y avait pas les paramètres que tu as déjà plus ou moins évoqués, à savoir non seulement le point de vue blessure, mais en effet ce point de vue expérience. C'est-à-dire qu'en effet, comparé à Trey Benson, il a été coureur numéro un d'une équipe à Texas l'année dernière, mais vraiment sur une très courte période. Où on ne sait pas trop si... Alors, je ne vais pas exagérer non plus, mais voilà, c'est vrai que c'était l'équipe de Texas qui avait vraiment le vent en poupe l'année dernière. On ne sait pas s'il a vraiment profité avant tout d'un bon climat ou si vraiment il a été l'un des principaux fers de lance, tout simplement, et il est amené à répéter ses performances-là en NFL. Maintenant, voilà, ça a été un des joueurs les plus productifs, encore une fois, après contact. C'est là encore un joueur qui peut être efficace sur le pass pro, et il n'y en a pas énormément, je trouve, dans cette classe. Donc voilà, tu l'as dit à la réception, il y a mieux mais il y a bien pire, et je trouve que ce qui est intéressant pour terminer là-dessus, c'est que même si comme Trey Benson il peut être amené à évoluer dans différents schémas, on l'a beaucoup plus vu évoluer dans un système dans des courses de zone en université, et dans la mouvance actuelle en NFL, je pense en effet que ça peut lui ouvrir pas mal de portes et l'amener à être très performant très vite derrière des all-line de qualité. Donc c'est aussi ça, en sortie de l'aspect purement physique et convalescence récente, honnêtement, il y a beaucoup de cases qui le cochent pour éventuellement être un titulaire rapide en NFL.
Je suis assez d'accord avec ça. On va finir ce tier 1 avec le petit, si on peut appeler comme ça, des trois quand même. Hein. Mm-hmm. C'est Blake Corum, joueur dont on pensait qu'il se présenterait à la draft l'année dernière. Et finalement, je me souviens d'un insider français qui s'appelait Grégory Richard qui nous avait dit « Non, 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 je suis à la finale nationale, il retourne en université. » C'est effectivement ce qui est arrivé. Blake Corum, donc coureur de Michigan, champion national cette année. Est-ce que, je vais dire tout de suite, hein, est-ce qu'il est trop petit pour être running back numéro 1 ou est-ce qu'il est trop talentueux pour être ignoré ?
En tout cas, la première équation va clairement lui fermer des portes. Ça, on reste en NFL où forcément, faut absolument cocher toutes les cases des observateurs dans les différentes franchises. Et forcément, quand on est à 5-8, ce qui doit faire 1m72, je parle sous ton contrôle, je vais pas dire de bêtises, mais on est en...
5-8, ça doit être ça, je vais vérifier en direct.
On doit être entre
direct,
70 et 73, je pense, dans ces eaux-là. Donc c'est sûr que ça fait relativement petit. Et forcément, si on commence un peu par les bémols, ça va le desservir dans pas mal de domaines. Forcément, à la réception face à des linebackers beaucoup plus imposants, par exemple, ça peut être péjorant. Sur le pass pro, on l'a vu quelquefois en difficulté en college football. Donc on se dit qu'en NFL, avec des défenseurs d'un tout autre gabarit, ça peut être problématique. Après, c'est un joueur qui joue avec une telle intensité et un physique qui ne correspond pas justement, enfin en tout cas, un côté vraiment puissant qui ne correspond pas paradoxalement à son gabarit intrinsèque, qu'on peut se dire que il a un avenir malgré tout en NFL. Moi, si on reprend quelques comparaisons, il y a beaucoup de similitudes, je trouve, il y a beaucoup de ressemblances dans son jeu à ce que pouvait faire Maurice Jones-Drew à l'époque, qui avait en effet ce gabarit très petit mais qui jouait avec une capacité à ne pas avoir peur du contact, à vraiment ne pas avoir froid aux yeux, tout simplement, et apporter justement cette énergie à des équipes qui pouvaient en avoir besoin autour de lui. Je pense que Blake Corum a cette capacité-là. L'autre point, malgré tout, important, je ne sais pas si tu as enchaîné là-dessus, mais c'est forcément l'aspect blessure. Lui aussi, comme Benson et comme Brooks, y a l'aspect infirmerie à prendre en considération. Et ça, forcément, au-delà des premiers paramètres que j'ai abordés, ça peut être quelque chose en sa défaveur.
Ah, c'est sûr. C'est sûr qu'on est sur des joueurs qui ont été blessés. C'est une position difficile sur le plan de la santé. C'est pas pour rien que souvent, la plupart des équipes maintenant ont des comités, parce que c'est malheureusement une des positions les plus impactées. Je suis assez d'accord avec toi sur Blake Corum. J'aime bien la comparaison avec Jones Roux, parce qu'il y a le côté chien de la casse. Encore une fois, c'est plutôt positif. Hein. Le côté vraiment... Chaque portée est un combat. Quoi. Mmh. Il n'est pas fainéant. Et c'est vrai que ça, c'est quand même important, parce que ça en dit beaucoup de la mentalité des joueurs. Et notamment sur les coureurs, je trouve que c'est quand même quelque chose d'important. Cette capacité, même s'il n'est pas de plus grand, même s'il n'est pas de plus puissant, à aller chercher un ou deux yards de plus juste par sa détermination, on va dire, c'est plutôt quelque chose de pas mal du tout. On a fini avec ce chapeau 1. On va donc aller dans le chapeau 2, puisque tout est logique ici. Nous sommes avant tout des comptables, enfin moi en tout cas. Et on va parler d'un tout autre profil. On va parler de Will Shipley. Will Shipley, alors comment parler de Will Shipley ? Est-ce que c'est un coureur ? Est-ce que c'est un slot receveur ? Non, j'exagère un peu quand même.
Un chouïa.
Quoi ?
Un chouïa.
Un chouïa. Mais quand même, je veux dire, il a eu plus de 40... il a été ciblé plus de 40 fois de saison d'affilée. Donc, il est plutôt pas mal. À l'inverse, je vais dire tout de suite, hein, comme beaucoup de double menace, c'est pas un grand bloqueur. Si ton but, c'est de protéger ton quarterback...
Ne le fais pas avec
pas envie. C'est peut-être pas lui que tu as envie de mettre sur le terrain. Mais pour autant, le joueur, il est loin d'être inintéressant, parce que lui aussi, il a plutôt un beau QI football. Je trouve qu'il est assez rapide, assez soudain, surtout. Et du coup, dans les yards après réception, il s'en sort pas mal. C'est-à-dire que c'est typiquement le genre de joueur, tu as envie de lui envoyer des passes écrans, des choses comme ça, parce que tu te dis, il peut transformer une action un peu pourrie en 8 ou 10 yards, et avec sa vision et son explosivité, il fait sauter les zones. S'il est en homme contre homme, c'est peut-être un peu plus difficile, mais lorsqu'il faut, entre guillemets, mettre le bazar dans une défense de zone, il est plutôt pas mauvais. Donc ça fait partie de ces joueurs. Lui, par contre, ne peut pas, pour moi, être un coureur numéro 1 sur les 3 tentatives. Il sera forcément... une partie d'un comité. Mm-hmm. Ça, c'est quasi obligatoire.
Il l'était à Clemson, hein ?
Il l'était à Clemson, tout à fait. Mais malgré tout, je pense que c'est un profil dans la NFL moderne qui plaît, parce que ces joueurs polyvalents, ces joueurs créateurs, ces joueurs intelligents, c'est aussi nécessaire dans une NFL qui est toujours plus complexe, qui est toujours plus rapide. Et je pense que c'est typiquement le genre de joueur, il y a 10 ans, il est au 6e tour. J'exagère peut-être, il y a 10 ans. Il y a 20 ans, il est au 6e tour. Mmh. Et aujourd'hui, on en parle en fin de 2e, au 3e tour, parce que c'est des piles électriques et qu'il en faut en NFL.
Pas grand-chose de plus à rajouter. Ce qui me perturbe un petit peu avec Will Shipley, malgré tout, c'est que je trouve que pour un coureur avec son gabarit, enfin en tout cas c'est pas un coureur très très grand, il doit être aux alentours d'un mètre 80, il fait quand même 95 kilos, et je trouve que c'est quand même pas le joueur en effet qui est... enfin, de toute façon c'est pas des armes avec lesquelles il compose, voilà, le physique tu l'as déjà dit, c'est quelque chose en effet qui paradoxalement va jouer contre lui, on va plus lui demander vraiment d'être comme on dit outre-Atlantique un all-purpose guy. Un joueur qui va vraiment chercher des yards dans tout type de situation, plutôt qu'en effet un joueur à qui on va dire bon bah voilà, tu vas être capable de courir ardemment au sol en cassant des plaqués ou en essayant de protéger ton quarterback, puisque ça, très clairement, que ce soit d'un point de vue technique ou tout simplement physique, on a vu qu'il n'était pas capable de le faire. Donc voilà, pas grand-chose de plus à rajouter. Ça pue le troisième tour, je trouve. C'est-à-dire, en effet, le joueur sur lequel on ne va pas se précipiter tout de suite, loin de là, mais sur lequel on se dit il a tellement de qualité athlétique qu'il peut en effet apporter, même si c'est à minima dans un comité, voire sur équipe spéciale, puisqu'il est parfaitement capable de retourner le ballon. Donc voilà, ça peut être une denrée malgré tout assez intéressante pour sa future franchise, même si voilà, il y a des défauts qui paraissent assez problématiques.
Eh ben écoute, il y a un joueur qui ne manque pas de force.
Non.
Lui, par contre, c'est le prochain joueur dont on va parler. C'est Audric Estimé. Je sais pas, j'ai vu les Américains qui l'appellent Estime, mais on est d'accord que théoriquement, il y a un accent.
C'est Estimé, ouais.
Voilà. Exactement. Running back de Notre-Dame. Mmh. Alors, est-ce qu'on n'est pas justement sur le complément parfait de Will Shipley ? Est-ce qu'à eux deux, ils ne font pas un incroyable comité ?
Ben, c'est un peu l'idée. C'est vrai que la transition est assez intéressante. D'ailleurs, il y a beaucoup, je trouve, de personnes dans l'Observatoire, notamment aux États-Unis, qui dans leur big board mettent ou l'un ou l'autre. Enfin, mettre ou l'un devant l'autre et vice-versa, parce qu'on a vraiment affaire à deux profils totalement différents. Et en fonction de ce que tu veux dans ton équipe, en fonction de tes préférences personnelles, bah, tu te diras, bah, moi je préfère avoir un coureur comme Audric Estimé et un coureur, ou en tout cas un joueur comme Will Shipley. Parce que c'est sûr qu'Audric Estimé, là, très honnêtement, et pourtant j'adore ce joueur, vraiment il a montré à Notre-Dame des qualités assez étonnantes, je trouve, pour un coureur de son gabarit, hein, qui doit être aux alentours de 100 kilos, un bon 100 kilos sur la balance. Donc forcément, on ne peut pas tout faire à 100 kilos, hein, je ne vais pas tout vous apprendre. On a vu que ça pouvait avoir certaines limites, notamment sur des changements de direction ou ce genre de choses en college football. Donc forcément, si déjà en universitaire, c'est palpable, en NFL, face à des athlètes comme on a actuellement en défense, ça va être extrêmement problématique. Son temps d'ailleurs sur le 40 yards au combine a été assez révélateur. Je crois qu'il fait 4,71. Il me semble que c'est le plus mauvais temps de tous les joueurs dont on va parler. Tous n'ont pas couru le combine à Indianapolis. Mais en tout cas, voilà, 4,71, ça confirme, je pense, pour beaucoup d'équipes, malheureusement, le fait que faut pas compter sur lui pour avoir affaire à un joueur explosif, capable d'avoir une seconde accélération, on va dire. Ça va être vraiment un bûcheron, un joueur qui va fatiguer les défenses adverses, qui va être capable de temps en temps de sortir du backfield, parce que je trouve qu'à la réception, c'est pas si déconnant que ça, malgré les mauvais échos que j'en vois. Sur le pass pro, c'est assez honorable, derrière certains joueurs dont on a déjà parlé. Donc voilà, est-ce qu'il jouera sur 3 tentatives, je sais pas, mais là encore on a affaire clairement à un joueur qui peut, dans un comité, être extrêmement précieux pour sa future équipe.
Je suis d'accord avec ça, c'est typiquement le coureur puissant, et aussi, j'insiste, moi c'est un truc qui me bloque beaucoup chez certains joueurs, mais excellent en protection de passe, mm-hmm. Je continue à penser que ça reste fondamental dans beaucoup d'équipes, donc c'est sûr que Il n'a pas une vitesse incroyable. Hein. C'est pas le home run player qui, une fois qu'il est passé, ne sera jamais rattrapé. Il y a des chances qu'il soit rattrapé 30 ou 40 yards plus tard par un cornerback. Mais bon, pour autant, on a besoin de ce genre de joueur. Et je trouve vraiment que Shipley et lui représentent exactement la raison pour laquelle beaucoup d'équipes ont des comités de coureurs. C'est-à-dire que c'est très rare d'avoir des joueurs qui savent tout faire et qui coche toutes les cases, et parfois il faut un costaud et un moins costaud si on tire un peu de trait, et là pour le coup c'est assez intéressant.
Oui, pour le coup lui était coureur vraiment principalement attitré du côté de Notre-Dame, et ça n'a pas été sans conséquence parce qu'il y a aussi quelques petits problèmes de fumble. Autant par exemple il n'y a pas de drop à la réception cette année, à chaque fois qu'on lui a lancé un ballon il l'a réceptionné. Il faut voir dans quelle situation aussi, hein. Je ne dis pas qu'il y a un arbre de tracé qui est ultra développé en sortie de backfield. Mais en attendant, voilà, les fumbles, ça a été un peu plus compliqué. Et peut-être là encore, ça confirme qu'il faut le ménager un peu plus que ce qui a été fait ces derniers mois du côté de South Bend.
Ça, c'est sûr. On va finir par notre dernier candidat du deuxième tour. Un joueur qui, j'ai vu, divise. Et je pense que ces dernières sorties ont renforcé un peu cette division. c'est notre ami Bucky Irving, donc coureur d'Oregon. Bucky Irving, qu'est-ce qu'on a ? On a un joueur qui est globalement, il n'a pas les dimensions idéales. Encore une fois, pas forcément un protecteur extraordinaire en termes de bloc. C'est pas forcément le joueur le plus latéral qui soit. C'est un coureur très nord-sud. Mais par contre, ce qu'il fait, il le fait très bien. Quand je dis nord-sud, c'est vous courez tout droit. Hein. Imaginez-vous le terrain, vous êtes au niveau du quarterback, donc le nord est juste devant vous. Donc voilà, c'est un joueur qui, pour le coup, assez explosif. Il sait très bien, en fait, prendre le trou, avoir un ou deux plaquages manqués et partir tout droit. C'est aussi un receveur qui n'est pas forcément mauvais. Mais par contre, c'est, je trouve, le type de joueur qui manque un peu de qualité purement athlétique. En fait, il est puissant, mais il n'est pas forcément athlétique. Il n'est pas soudain, il n'a pas un changement de direction où tu vas te dire wow, « Waouh, vraiment, c'est incroyable, etc. » Je trouve que par contre, il joue... Enfin, je sais qu'au niveau des tests, etc., mais je pense qu'il joue plus rapide qu'il ne teste, mais ça, c'est encore autre chose. Mais du coup, c'est un joueur... Alors, parfois, tu vas dire « Oui, il a fait 5 courses pour 100 yards, c'est extraordinaire parce qu'il a fait une course de 85 yards. » mais on va dire que la constance, elle n'est pas forcément là. Et moi, du coup, ça m'embête un peu parce que c'est des types de joueurs, type Miles Sanders, quoi, qui vont tenter de faire le crabe 4 fois sur 5, ça n'a pas marché. Puis il y a une fois où ça marchera et on va se dire waouh, vraiment incroyable, quelle explosivité. Mais est-ce que vraiment, sur le long terme, tu as besoin d'un coureur comme ça ? Je ne sais pas.
Oui, là encore, on est donc du coureur de comité. Alors, c'est marrant parce que c'est pas les mêmes profils, les mêmes caractéristiques brutes. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes. Je trouve que le système offensif d'Oregon ces derniers mois a non seulement desservi Troy Franklin sur le poste de receveur, mais a pas forcément permis non plus, ou a peut-être gommé, hein, comme tu le disais tout à l'heure, un peu trop les défauts de Bucky Irving. C'est vrai que globalement, on sait à peu près à quoi on a affaire. Et malheureusement, le côté un peu projection, ce fameux plafond dont on n'arrête pas de vous parler pendant toute la période draft, bah, on se demande s'il est si important que ça. Et c'est sûrement ce qui risque de faire glisser un Bucky Irving d'un troisième à un cinquième tour, par exemple. Parce qu'on va se dire, oui, les qualités intrinsèques sont là. Oui, il est capable d'être très polyvalent. Oui, il est capable d'être assez intense également au contact parce que c'est un des joueurs, un des coureurs en tout cas de cette classe qui obtient le plus de yards après contact, notamment en 2023. Mais à côté de ça, bah, tu le disais, tu as un joueur qui est en passe pro et complètement dépassé par les événements quand il faut improviser, qui n'est pas forcément capable, même s'il a eu plus souvent les ballons du côté des Ducks, d'assumer pleinement les responsabilités à l'échelon supérieur. Donc voilà, ça va être, je pense, une première option, une option, dans un backfield de comité au cours des premières années. Il faut voir comment il va se développer, mais je suis assez sceptique, tout comme toi a priori, sur son aptitude à être vraiment un coureur d'envergure dans les années à venir.
Moi, je vais te dire tout de suite, hein, parce qu'on respecte quand même un peu la valeur qu'ont les joueurs par rapport au marché, puisque les insiders, pour la plupart, ils ne font que répercuter ce qu'ils entendent des scouts, etc. Donc, il faut une certaine cohérence. Mais moi, personnellement, j'ai plus envie de tenter le coup sur tous les joueurs qu'on a en tier 3. Que sur Irving, tu vois, pour être honnête.
Ouais.
C'est ça qui est peut-être... Alors, peut-être que je suis un peu trop violent, mais...
Non, je ne suis pas loin de te rejoindre, mais encore une fois, c'est aussi lié, je pense, à cette histoire de plafond que j'évoquais tout à l'heure. C'est que, voilà, est-ce que vraiment aujourd'hui, parce que ça fait partie malgré tout qu'on aime ou qu'on n'aime pas de la draft NFL, est-ce qu'aujourd'hui, Bucky Irving fait un peu saliver, donne envie aux scouts NFL de se dire, bah tiens, là, on va tenter un pari absolu? J'en suis pas persuadé. Je pense qu'on a vu ce qu'on avait à en voir du côté d'Oregon et qui rendra d'excellents services en NFL, mais dans un rôle qui me semble assez prédéfini à l'heure actuelle.
Oui, je suis assez d'accord avec ça. On va donc enchaîner avec notre troisième tiers, du coup, avec un joueur Alors, un joueur performant sur un plan statistique, ça, on ne peut pas le nier. C'est Braylon Allen qui a fait plus de 3400 yards en carrière et 35 touchdowns. Il vient de Wisconsin. Wisconsin, évidemment, c'est, on a vu un ou deux coureurs sympathiques
le temple des coureurs.
Sortir de Wisconsin. Oui, c'est, non, mais c'est quand même... Ça devient vraiment un pattern. Et pourtant, même s'il est... Je n'ai pas regardé toutes tes stats, mais je pense qu'il doit être peut-être le plus productif de tous sur ces trois dernières saisons. Même s'il a brillé, même si on l'a vu partout sur les highlights, etc. Pourtant, on ne le voit qu'au troisième, qu'à partir du troisième tiers. Pourquoi ? Nous avons boudé Braylon Allen. Quand je dis boudé, évidemment, j'exagère, mais qu'est-ce qui fait que sa cote n'est finalement pas si haute par rapport à sa production universitaire ?
Bah, alors, je parlais du système offensif qui a pu desservir Bucky Irving du côté d'Oregon, en tout cas dans l'aspect projection chez les pros. J'aurais du mal à dire le contraire pour Braylon Allen, qui malheureusement, contrairement à certains de ses prédécesseurs, hein, je pense à Jonathan Taylor, Melvin Gordon, qui ont quand même démontré une certaine polyvalence quand ils sortaient de l'université de Wisconsin. Malheureusement, je trouve que Braylon Allen, on l'a vite enfermé dans un registre. C'est un joueur qui va te plaire, j'en suis persuadé, puisque c'est le joueur, parmi les joueurs qu'on va aborder dans cette émission, le plus jeune de cette classe. Et là, on en revient à cette histoire de plafond. C'est que certes, il est quelque peu boudé parce que, en effet, dans l'utilisation... On ne l'a pas forcément mis dans une aptitude, on va dire, à avoir énormément de scénarios. Ce n'est pas un joueur qui a été suffisamment sollicité en sortie de backfield, par exemple. Ce n'est pas un joueur qui a vu énormément de situations, de schémas de blocs, etc. Donc, en termes de vision et de patience, par exemple, ce n'est vraiment pas le joueur le plus abouti, le plus établi dans cette catégorie-là. Donc, c'est vrai que ça reste malgré tout, au premier abord, un joueur assez brut, qui malgré tout a démontré du côté de Wisconsin qu'il était capable d'être extrêmement physique, d'avoir cette accélération soudaine qui lui permet notamment de faire des dégâts face à des défenses qui sont quand même habituées, hein, les défenses de la conférence Big Ten à défendre quand même sur du jeu au sol, et on les a vu quand même pas mal au supplice, tu l'as dit, statistiquement face à Braylon Allen. Donc cette capacité athlétique, physique, technique dans une moindre mesure, parce qu'on reste quand même sur des programmes où voilà, c'est quand même très axé le côté technique. Maintenant, je pense que c'est plus d'un point de vue QI football, si je peux parler ainsi, hein, même si c'est toujours un petit peu, ça sonne toujours un peu méprisant quand on le dit comme ça, mais en tout cas d'un point de vue science du jeu, vision intrinsèquement parlant, c'est un joueur qui doit se développer. Et alors là, je vous le dis, s'il tombe sur un coaching staff, je ne sais pas, à la Baltimore Ravens, à la Philadelphia Eagles, pourquoi pas, en tout cas dans une organisation assez crédible, j'entends, pour vraiment pleinement le développer. Attention à ce qu'on peut en obtenir.
Oui, je suis assez d'accord avec toi. Que faisais-tu en janvier 2004 ?
C'est une excellente question. J'attendais fébrilement ma majorité.
c'est beau. J'étais au lycée, moi aussi. Mais en janvier 2004, Braylon Allen naissait. Et oui, puisqu'il n'a que 20 ans. Il vient littéralement des avoirs. Donc, à la fin de la saison régulière, il aura encore 20 ans. Donc, évidemment, potentiel de développement. Je fais souvent référence à cette interview, mais elle m'a marqué. Quand j'avais interviewé Deo Chenal avant Super Bowl, on discutait un peu des schémas, etc. Et il me disait, oui, à Wisconsin, c'est très binaire. Et c'est vrai qu'en fait, on peut l'appliquer à la défense comme à l'attaque. C'est-à-dire que c'est des schémas très binaires où les joueurs ont un rôle. Et il faut le remplir. Mais c'est pas, on va dire que ce n'est pas une université qui fait une ode à la polyvalence, pour le dire comme ça. Après, je suis d'accord avec toi, hein, ça reste un joueur qui a, même s'il a une marge de progression, encore faudra-t-il qu'il progresse, parce que c'est un buff, ça c'est évident. Après, c'est pour l'instant pas un grand receveur, c'est pour l'instant pas forcément le plus explosif, enfin, si, il est explosif, mais c'est pas forcément le plus latéralement soudain qu'on puisse avoir. Donc voilà, je pense que finalement tu sais pas trop ce que tu as. C'est toujours le même problème. C'est soit tu as un joueur qui est limité, et c'est pour ça que son utilisation était limitée, soit tu as un joueur qui est beaucoup bien meilleur que ce qu'il a montré, mais il était dans une université qui le bridait et limitait son utilisation.
Alors, juste pour rebondir sur ce que tu dis, et notamment sur les propos de Léo Chenal, faut bien garder à l'esprit aussi que voilà, l'ancien head coach, notamment de Wisconsin, Paul Christ, était très en effet dans le côté traditionnaliste du jeu à la Wisconsin. Donc en effet, ça s'est répercuté en attaque et en défense. Ce qui n'a pas aidé en plus Braylon Allen, c'est qu'il y a eu un changement de coaching staff, notamment lors de sa dernière année à Wisconsin, sauf que on a été dans une espèce de transition, une espèce d'entre-deux. On voulait passer d'un jeu au sol à un jeu à la passe. Et on sait que ces choses-là ne se font pas naturellement et que forcément, Braylon Allen en a un peu pâti. Je crois qu'il y a quelques petits pépins physiques qui ne sont pas aussi importants que ce qu'ont eu d'autres joueurs dont on a déjà parlé. Mais ça n'a pas aidé non plus pour s'intégrer justement dans cette fameuse transition-là. Et en effet, comme tu le dis, ça insiste un peu plus sur le fait que est-ce que ça contribue à une sous-utilisation ou au contraire au maximum qu'on a pu en tirer du côté de Wisconsin. Ça, c'est forcément une interrogation, mais j'ai du mal à me dire que c'est pas un joueur qu'une équipe va sur lequel une équipe va flamber et dire tiens allez, on envoie un troisième tour parce que le pari vaut le coup d'être tenté.
Moi je tombe pas de ma chaise si c'est le premier running back qui sort.
Pareil.
C'est le septième dont on parle, mais je tombe pas de ma chaise si quelqu'un se dit oh là, celui-là je vais en faire un monstre. Écoute, on verra bien comment ça se passe, évidemment. C'est aussi le jeu de la draft. Il faut être le bon joueur et il faut tomber sur le bon coach. Moi, je prends toujours l'exemple de Trey Higgins, mais de Jordan Malaita. Alors, lui, qui était un profil différent, parce qu'il n'avait pas joué en université, il venait d'Australie, tout ce qu'on veut. Je pense que dans 30 franchises sur 32, à moins de tomber sur le coach de ligne offensive des Patriots ou des Eagles, je pense qu'il aurait fait un four. Voilà. Donc c'est quand même très important de savoir les coachs de position, et encore je parle de l'ancien coach des Patriots, je ne sais plus qui ils ont aujourd'hui. On enchaîne avec Ray Davis de Kentucky. Ray Davis lui non plus qui n'est pas le plus grand qui soit, mais malgré tout c'est un joueur qui est intéressant. Là encore on a le côté belle vision. On a le côté polyvalent, double menace, je vais peut-être pas aller jusque-là, mais en tout cas, il est intéressant. Il est plutôt rapide, ou en tout cas plutôt soudain. Lui, il a une bonne... comment dirais-je ? Un bon mouvement dans l'espace nord-sud, mais est-ouest aussi. Et ça, je dois avouer que j'aime beaucoup. Et du coup, j'ai l'impression si on ajoute le fait qu'il soit un bon receveur, j'ai l'impression que lui, par contre, peut apporter dans n'importe quelle équipe. Là encore, plutôt dans un comité. Ce n'est pas un joueur que vous allez vouloir forcément sur les trois tentatives. Parce qu'en passe protection, ce n'est pas forcément extraordinaire. Parce que ce n'est pas forcément le plus puissant. Et parce que j'ai vu que ça critique beaucoup sa vitesse sur le long speed, donc sur les longues distances. Moi, ça ne m'a pas particulièrement choqué. Mais pourquoi pas ? Je trouve que voilà, c'est un joueur. On parlait des petites piles électriques. C'est une pile électrique. Après, le défaut d'une pile électrique, c'est que c'est pas un joueur complet.
Oui, j'aurais tendance à te rejoindre. Je pense que là, je vais mettre les pieds dans le plat tout de suite. Mais c'est vrai que là aussi, on est sur un profil un petit peu inverse à Braylon Allen. C'est-à-dire que les qualités, elles sont là. Et tu les as bien citées. C'est un joueur en plus qui a un parcours extrêmement atypique, qui a grandi en famille d'accueil, qui a eu un parcours familial très très compliqué où il a fallu justement que... Enfin, où il s'en est, on va dire, sorti, où il s'est sorti un petit peu de la difficulté, notamment par le biais du football. Et il a toujours été globalement un modèle et une source d'inspiration auprès de ses coéquipiers. Donc voilà, on sait que dans la tête, mentalement, c'est un joueur qui est capable de faire... c'est un joueur qui est capable de déplacer des montagnes, comme on dit. Physiquement, il a un profil qui ressemble à celui de Drake Estimé, mais il est plus rapide. Donc c'est vrai qu'encore une fois, ça fait quand même une polyvalence sur le papier extrêmement intéressante. Il y a deux points, moi, qui m'inquiètent le concernant. Un, c'est l'âge. Contrairement à Braylon Allen, Ray Davis, il a déjà 24 ans. Il a un long parcours universitaire. D'abord, il me semble, à Temple, à Vanderbilt et à Kentucky. Donc on sait qu'il est capable d'énormément de choses, mais concrètement, Je pense là encore, comme on parlait de Bucky Irving tout à l'heure, à mon avis, il ne va pas surprendre grand monde, sur les choses qu'il est capable de réaliser en plus en NFL. Donc vraiment, il faudra le prendre entre guillemets dans son jus, c'est-à-dire qu'on n'en apprendra pas forcément plus selon moi. Et tu l'as dit tout à l'heure, pour moi, le vrai point d'interrogation, surtout quand tu arrives en NFL, avec le physique qui est le sien, être autant en difficulté, en tout cas sur certaines séquences, comme on l'a vu sur le pass pro, c'est quand même assez étrange. Donc là encore, faut quand même garder à l'esprit que même si dans son cursus universitaire, il a toujours franchi des paliers, je le disais, avec différents programmes où systématiquement, il avait une exposition supérieure et il a systématiquement répondu présent, en NFL, il ne croisera pas les mêmes défenses et ça risque de se gâter un peu plus. Et c'est là où je me dis qu'en effet, c'est un joueur qui peut être un style, qui peut être une excellente affaire pour la franchise qui le récupère, mais dans un comité et avec un minimum de temps quand même pour s'acclimater, notamment dans certaines situations.
Ouais, je suis assez d'accord. Il a le profit du mec qui est bon, mais pas assez bon pour la NFL. J'espère me tromper parce que j'adore le joueur.
Moi aussi.
Mais c'est vrai que j'ai peur qu'il se prenne un petit mur à un moment, ce qui pourrait arriver. Mais d'un autre côté, je veux dire, vous pouvez très bien ne pas correspondre aux standards et réussir. On a vu, je prends des exemples terribles, mais on a vu des Darren Sproles devenir des joueurs très respectés en NFL. Le physique ne fait pas tout. On va finir avec notre 9e et dernier candidat, ce qui me permet de faire un petit coucou à Marshawn Lloyd, le receveur de USC, que tu avais présélectionné dans les 10 et que j'ai volontairement sabré de manière absolument terrible.
Ah oui, le fameux fan de UCLA est ressorti.
Ah, j'ai vu USC, moi j'ai dit non, tchac. Et du coup, le dernier candidat, c'est Jalen Wright de Tennessee. Mm-hmm. Vraiment, les noms les plus génériques possibles. Je suis sûr qu'il y a un Jalen Wright à peu près dans chaque équipe. Écoute, joueur de Tennessee, joueur rapide, évidemment. Il est rapide, mais est-ce qu'il est explosif? Voilà, je vais y aller comme ça.
C'est quand même, oui, je pense que tu peux mettre sur le papier qu'il est quand même explosif. Après, peut-être qu'on n'a pas la même définition, mais oui, je pense que justement, paradoxalement, c'est peut-être bête ce que je vais dire, mais je vais préciser mon propos après, mais peut-être qu'il l'est un peu trop. Et c'est-à-dire que justement, c'est un peu un intermittent à l'heure actuelle, Jalen Wright. C'est un joueur qui, en plus, ça aussi, et c'est aussi pour ça que par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, on disait que les joueurs du tiers 3 peuvent éventuellement surprendre et être parmi les premiers joueurs sélectionnés. Là aussi, c'est un joueur très jeune. Il va sur ses 21 ans, si je ne me trompe pas. Et encore, je ne vais pas dire de bêtises. J'ai plus sa date de naissance sous les yeux. Mais oui, c'est ça. Il fêtera ses 21 ans juste avant la draft. Donc, joueur extrêmement jeune. Un vrai junior, comme on dit. C'est-à-dire qu'il a toujours été sur le terrain lors de ses 3 années à l'université du côté de Tennessee. Le souci, c'est que, on l'a vu qu'il était capable d'apporter cette explosivité dans une attaque de Tennessee, en plus, qui a clairement progressé dans son sillage. Le problème, c'est que, du côté de Tennessee, on s'est dit, OK, il est bon, mais pas tout le temps. Donc, du coup, on va plutôt l'insérer dans un comité où il va être capable d'être, où il va être capable, justement, de faire mouche, de faire des courses un peu à la home run, comme tu le disais tout à l'heure, plutôt que lui donner une grosse charge de travail dans le backfield qui, au final, va peut-être le desservir. Si je peux prendre cette comparaison, et après je te laisse la parole, on est peut-être sur un profil Jahmyr Gibbs du pauvre, c'est-à-dire un joueur qui n'a pas les qualités athlétiques et intrinsèques qu'avait Jahmyr Gibbs en sortie d'université, mais un joueur qui est capable vraiment, sur certaines séquences, une fois que les défenses ont été un peu fatiguées, de prendre feu et potentiellement d'aller chercher les gros gains.
Bah écoute, je te rejoins. Alors en fait, je pense qu'il est complètement athlétique, mais qu'il n'est pas encore complètement développé. C'est vrai que c'est là, on va dire que par rapport à Gibbs, il n'a pas le même niveau de maturité. Mais là encore, je pense qu'on a un potentiel énorme. On a un joueur qui, comme tous les joueurs de Tennessee, est très volontaire. Et pour le coup, moi j'en sors 2-3 comme ça.
On rappelle, que l'équipe de Tennessee s'appelle les Volunteers.
Mais voilà, par moment je le trouve un petit peu frustrant parce que il a tout pour être dominant et finalement, quand constamment il a irrégularité, tu te dis, mais d'où est-ce que ça peut venir, en fait? Est-ce que c'est juste un joueur pas intelligent? Et je pense pas que ça soit le cas. Est-ce que c'est un joueur qui a des mauvais réflexes? Peut-être. Mais je pense vraiment que, pareil, lui, tu le laisses mûrir 2 ans dans une franchise qu'il coache bien, il peut vraiment devenir un running back important en NFL. Mm-hmm. Et c'est ça que je trouve bien dans cette QV, pour le coup. C'est, il va falloir être patient sur certains profils, mais je trouve qu'il y a quand même, en termes de quantité, beaucoup, beaucoup de joueurs avec un potentiel intéressant.
Ouais. Pour contextualiser, je pense que tout simplement aussi, et ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, Jalen Wright, c'est pas le joueur, en effet, qui, notamment après contact, va être capable de faire mouche. Je pense que vraiment, le défi physique, c'est pas ce qu'il préfère. Et sans vouloir le rentrer dans une catégorie, je pense que lui, on a affaire à un coureur vraiment calibré pour de la zone. Un joueur qui, vraiment, dans la prise d'espace, va être capable de... peut vraiment être insaisissable dans un comité et sur, encore une fois, de la course en zone. Mais si tu lui demandes vraiment d'aller constamment au charbon, il ne faudra pas s'étonner que ce soit pas pleinement efficace, quoi.
Mais tu vois, c'est le genre de joueur où je pense que ces interviews sont importantes parce que tu as envie de t'assurer que son irrégularité n'est pas due à une personnalité un peu dilettante, qu'on a un peu rien à faire, etc., comme on a pu en voir, hein, parfois en NFL. Donc, je ne sais pas quel est le résultat des interviews. Hein, je ne vais pas faire d'hypothèse ou quoi, mais je pense que c'est un joueur qui a dû jouer gros dans les interviews pour être ou non dans le board de telle ou telle équipe.
Ouais. Mais pour moi, il est, ça fait partie de ces joueurs qui sont entre le 3e et le 5e. Je me dis qu'il est bon. Un bon début de 4e tour. Je pense vraiment pour démarrer le tour 3, ça peut être une équipe qui se dit bon, allez, parmi les joueurs qui sont encore disponibles, je ne serais pas étonné qu'il soit quand même bien placé dans certains big boards.
On l'a dit, hein, c'est extrêmement homogène, mais on peut dire qu'entre le milieu du 2e et le milieu du 5e tour, les 9 devraient être partis.
Il y a de fortes chances, ouais.
Voilà. Prenons évidemment même les 10, hein, si vous ajoutez Lloyd.
Oui, sans interrogation médicale, comme on a chaque année. Hein, et on l'a dit, il y a quand même un historique de blessures assez lourd pour certains joueurs. Mais en effet, on devrait être dans cette fourchette.
Ah, il y a toujours le risque Carson Strong, hein, où on dit non, le genou, il est détruit. Merci, au revoir, tu n'es même pas drafté. Mais là, on va partir du principe. Je pense que celui qui joue peut-être le plus gros, c'est Brooks, parce que sa blessure est quand même très récente. Mmh. Donc, ça pourrait impacter beaucoup sa valeur. Merci, Grégory.
Merci à toi.
Écoute, on est devenus très forts tous les deux. Ça fait 2 fois qu'on est dans les temps. J'espère que Alain sera très fier de nous. Et je vous remercie évidemment tous pour votre soutien vraiment continu sur la draft. On va continuer évidemment à vous abreuver de contenu. N'oubliez pas qu'il n'y a pas que les podcasts. Il y a également l'écrit. Avec une fiche par jour, il y a plus de 50 fiches de programmées. Donc c'est vraiment un rendez-vous, un rendez-vous journalier que vous devez avoir. C'est à 13h, hein, si je ne dis pas de bêtises. En général, c'est en milieu de journée. Vous ne savez pas quoi faire devant votre écran. Vous rentrez de votre pause déjeuner, une petite fiche draft, et ça sera parfait. La suite des programmes, je le dis quand même, hein, il vous reste, si vous avez suivi, le podcast des Safety. Et après, mesdames, messieurs, nous allons arriver 32 jours avant un draft. Et 32 jours avant un draft, c'est le début des pastilles. 32 pastilles en 32 jours, 32 équipes, 15 minutes par équipe. Vous l'aurez tous les matins pour le petit déjeuner avec vos céréales. On va évidemment, comme toujours, essayer de faire peu ou prou dans l'ordre de la draft, même si évidemment, selon les équipes et les événements, on peut avoir des petits ajustements, mais n'oubliez pas, ça commence, si je ne dis pas de bêtises, je regarde, ça commence le 23 mars, et du coup, ça se finira évidemment le 23 avril, c'est ça?
Bah la draft commence le 25, je crois, ou peut-être le 24?
Oui, bon, peut-être que votre serviteur se trompait d'une journée, mais...
Non, mais ça me semble cohérent, 23 mars, 24 avril, je pense qu'on a 32 jours.
Je pense que j'avais laissé le 24 parce que le 24, il y a la mock live.
Oui.
Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de pastille.
Ah.
Je crois que c'est ça l'explication. Ah. Exactement.
Vous restez connectés quoi qu'il en soit.
Il y a du contenu à ne plus savoir quoi en faire, à en perdre la tête. Merci à tous et passez une très bonne journée. Salut, salut.
Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.